Chapitre 25e, une arienne. Gunhild croyait se trouver dans la maison de Nicarété, ami d'Olympia. Quand les grands dignitaires de l'Empire se laissaient corrompre à prix d'or, il n'est pas étonnant que Génius ait pu acheter facilement des porteurs de chaises. Quel était son plan? Il n'en avait à vrai dire arrêté aucun d'une manière claire pour lui-même. Avant tout, il voulait s'entretenir librement avec Gunhild. Eugraphia lui avait très formellement refusé son appui et l'avait même menacé de la colère de l'impératrice. Ne pouvant compter sur la voie ordinaire de l'intermédiaire, il devait tendre à son but avec mystère et circonspection. Il s'était éveillé en lui une passion qu'il n'avait jamais ressentie. Quelque chose comme l'amour noble se faisait jour dans son âme, car il sentait son indignité et il aurait désiré s'y arracher. Mais il était trop profondément abruti pour être capable d'un retour sérieux sur lui-même, qui l'aurait amené au sacrifice et à la conversion. Il ne voulait voir que dans les circonstances extérieures la source de son misérable état, et il était décidé à se délivrer de tout ce qu'il appelait circonstances extérieures, y compris son état et sa foi qu'il n'avait embrassé et considéré jamais que comme des formalités imaginaires. Comme Gunhild était d'Arienne, il ne doutait pas que sa proposition d'embrasser l'arianisme ne fît sur elle une vive impression. Il est vrai qu'après cela, il ne pouvait plus être question pour lui de rester à Constantinople. Mais c'était un point auquel il ne pensait pas encore. L'essentiel était d'abord de parler à Gunhild, de la gagner. Pour arriver à ce résultat possible, il fallait songer aux moyens, prendre des dispositions, voir Gunhild chaque fois qu'elle venait à Sainte-Sophie. C'était l'objet de toutes ses pensées, de toutes ses démarches, de toute sa vie. Quand les porteurs de Gunhild lui eurent appris que leur maîtresse voulait faire visite à Nicarété, quand vint le moment où ces hommes devaient se substituer à ceux de Gunhild, quand enfin il vit que cet échange était effectué, Eugénius eut volontiers sauté de joie. Cependant, cette joie excessive s'évanouit, sans qu'il sût lui-même pourquoi, aussitôt qu'il vit l'heureux succès de son stratagème. Gunhild monta sans aucune défiance dans sa chaise, qui la transporta dans une maison dont les habitants étaient tout dévoués à Eugénius. C'est là qu'il faisait avec ses amis les orgies qui craignaient le grand jour. Une femme âgée vint recevoir Gunhild, qui lui demanda à parler à Nicarété. La vieille alors la conduisit à travers une petite cour, où se trouvait une fontaine jaillissante, ouvrit une porte et pria Gunhild d'entrer et d'attendre. Cette cour, ce jet d'eau, cette chambre modestement meublée, où brillait une simple lampe, retracèrent vivement à l'esprit de Gunhild les souvenirs de sa première visite à Olympia, et elle se laissa aller à ses pensées. « Oh, si je savais seulement quelle est la vraie Église, je lui appartiendrais sans condition. Absolument comme Flora disait, je veux être chrétienne. Mais cette certitude, où la trouver? Qui me la donnera ?» En sortant de ses réflexions comme d'un sommeil, il lui sembla que Nicarété se faisait attendre longtemps, trop longtemps. Gunhild voulut sortir de la chambre pour faire annoncer à Nicarété qu'elle reviendrait le lendemain à une heure moins avancée. Mais la porte ne se laissa pas ouvrir. Elle était fermée au dehors. Gunhild fut saisie d'un effroi indicible qui glaça son sang dans ses veines. Elle frappa à la porte. Elle appela ses porteurs. Point de réponse. Le silence du tombeau. Elle n'entendait que les battements de son cœur. Que signifie cela? Où suis-je? Qui m'a trahi? Et dans quel dessein? Elle se pose à toutes ces questions sans y trouver de réponse et tomba tremblante et sans force sur un siège. Mais au bout de quelques instants, elle avait repris ses esprits. « Quoique ce puisse être, dit-elle à demi-voix, comme pour s'assurer que sa voix ne tremblait pas, soit trahison, soit méprise, il faut que je conserve toute ma présence d'esprit. Le courage du sang-froid, inébranlable, inaccessible à toute indignité, peut seul me délivrer de cette prison. » Un pas rapide se fit entendre, le verrou fut tiré et Eugénius entra. Gunhild reconnut immédiatement le jeune homme de Sainte-Sophie, mais elle ne perdit pas contenance. « M'apportez-vous des nouvelles de la noble Nicarété ? » lui dit-elle d'un ton de bienveillance. « Puis-je la voir aujourd'hui ? Ou bien lui est-il agréable que je revienne demain ? » Eugénius fut tout interdite de ces questions inattendues. « Elle n'est pas ici, » balbutia-t-il. « Alors soyez assez bon pour avertir mes porteurs, » dit Gunhild en s'avançant tranquillement vers la porte. Eugénius lui ferma le passage. « Un seul mot, noble Gunhild. » Elle le regarda d'un air froid et étonné. « Je ne suis pas habitué à causer avec des étrangers dans une maison étrangère. Cette maison est la mienne, noble Gunhild. Cette maison est la vôtre. Alors il y a ici une méprise. Et la meilleure manière de la faire cesser, c'est que j'en sorte. Non, pas avant que vous ayez daigné m'entendre, » dit Eugénius d'un air décidé. « Ah, vous avez probablement besoin d'une recommandation auprès de l'impératrice, » répondit-elle avec calme en s'asseyant. Cependant, vous comprendrez que la manière dont vous vous y prenez pour l'obtenir ne saurait me trouver très disposé à vous la faire avoir. » Eugénius s'était remis de son étourdissement. « J'ai besoin en effet d'intercession, non pas auprès de l'impératrice, mais bien auprès de vous-même, noble Gunhild. » « Qui êtes-vous ? » demanda-t-elle d'un air sec. « Je suis de famille noble et prêtre de l'Église catholique. » « Prêtre de l'Église catholique ? » s'écria-t-elle avec joie et en changeant complètement de ton. « Vous êtes donc du nombre de ceux que Dieu prend pour instrument de sa grâce et de sa miséricorde ? Quel est le noble dessein dans lequel je puis vous être de quelque secours ? Le plus noble qui se puisse exécuter ici-bas. Il s'agit de retirer un homme de l'abîme. « Parlez, je suis prête, » dit-elle avec intérêt. Un jeune homme s'est mis par inexpérience et pour complaire aux vues imprudentes de ses parents, dans une position qui est tout à fait contraire à sa nature, qui le charge de lourdes chaînes et le pousse dans la voie de la perdition, parce que ce joug pesant sur lui est insupportable. Il se sent misérable et prêt à faire un malheur. En ce moment, il est résolu à sortir de cette triste position pour éviter un plus grand mal et à entrer dans une autre d'où dépend sa résurrection morale. Mais cette résolution rencontre d'immenses difficultés. Pourtant, elle ne serait pas insurmontable si vous vouliez le seconder et l'aider à exécuter son dessein. « Si je vous comprends bien, » dit Gunhild sérieusement, ce jeune homme a fait précipitamment et imprudemment un mariage qui ne le rend pas heureux. Maintenant, il veut répudier sa femme et se marier autrement. Mais cela n'est pas permis aux chrétiens. Le sacrement du mariage enchaîne pour la vie. Et je ne comprends pas que vous vous chargiez de défendre une cause aussi mauvaise. « C'est quelle est la mienne ?» fit Eugénius avec chaleur. « Ah, vous êtes ce jeune homme. Vous êtes marié. Et vous désirez que je vous aide à répudier votre femme. » « Il n'y a qu'un insensé qui puisse me faire une pareille proposition, » dit Gunhild d'un ton glacial. « Assez de malentendus, » fit Eugénius avec passion. « Sachez-le donc, je ne suis pas marié. Je suis prêtre pour ma malédiction et ma perte. Aussi, je ne veux pas rester prêtre. Je veux rentrer dans la vie laïque. Quand je vous ai vu pour la première fois, j'ai été pris d'un sentiment d'horreur pour mon passé, et j'ai résolu que mon avenir serait tout autre. » Tout autre par vous, noble Gunhild. J'ai pensé que vous seriez assez généreuse pour m'aider à me relever. J'ai espéré que vous ne resteriez pas indifférente envers un homme que vous avez impressionné assez fortement pour bouleverser tout son être. Que vous employeriez votre crédit auprès de l'impératrice pour m'obtenir une dispense. Que vous consentiriez à unir votre vie à la mienne. Et qu'après vous être trouvée sur ma voie comme une divinité protectrice, après m'avoir sauvé, vous m'aimeriez. « Assez, » fit Gunhild d'un ton impérieux, « assez d'horreur et d'impiété. Dieu m'est témoin que j'en suis innocemment la cause. Si j'avais l'ombre d'un reproche à me faire, je voudrais pleurer par une sévère pénitence de toute ma vie, le crime de vous avoir détourné de votre sainte vocation. En ce moment, je ne pleure que l'outrage que vous me faites, que vous vous faites à vous-même. » Elle s'est élevée. Ses yeux bleus brillaient menaçants dans son beau visage pâle et agité. Un torrent de larmes s'échappa du fond de son cœur. En la voyant pleurer, Eugénius prit un nouveau courage. « La femme qui pleure, pensait-il, veut être consolée. Et le consolateur est toujours bien accueilli. » « Le mot d'outrage et Gunhild ne peuvent aller ensemble, » dit-il. « Vous m'avez mal compris. Je n'ai rien dit qui peut vous mettre hors de vous. » Gunhild sécha rapidement ses larmes. Un homme élu de Dieu pour l'emploi le plus saint, dit-elle, un serviteur de son Église, lié à elle par des vœux sacrés, veut rompre ses vœux parce qu'il a vu une fille arienne, cela me surpasse et me met hors de moi. Je suis exclu du ministère sacerdotal, fit Eugénius d'un ton maussade. C'est déjà un pas vers ma liberté. Oh, nullement. Cela prouve seulement votre impénitence, votre endurcissement dans le mal. Vous êtes prêtre, vous restez prêtre, et le monde est fermé pour vous avec tout ce qu'il appelle des noms de bonheur et de joie. Fort bien, noble Gunhilde, dit Eugénius d'une voix caressante. Je prendrai, si vous le désirez, une autre voie. Une voie dans laquelle un très grand homme a marché. Je ne désire rien, dit-elle, si ce n'est que vous puissiez réfléchir sérieusement sur vous-même. S'il y a des difficultés trop grandes, ou si l'impératrice se scandalise que je demande une dispense, je suis tout prêt à suivre le prêtre d'Alexandrie qui a quitté l'Église catholique et fondé l'Église arienne. Je serai ainsi votre coreligionnaire, je serai arien, et comme tel, délivré de mon joug. Unis alors dans une même foi, j'ose espérer que l'amour... Taisez-vous ! S'écria-t-elle. Votre foi est de l'apostasie, et quant à votre amour, je ne sais pas dire ce qu'il est. Apostasie ? Noble Gunhilde, réfléchissez. Appelez-vous Arius un apostat ? Je ne l'ai point fait, jusqu'à présent, dit-elle d'une voix sourde. Eh bien, ce que vous admettez, ce que vous admirez même dans le prêtre d'Alexandrie, vous n'excusez pas en moi ? Cela est-il juste ? Il a abandonné l'Église parce que ses maximes de foi ne lui convenaient pas. Et il en a fondé une nouvelle qui, dans le siècle dernier, a failli étouffer l'ancienne. Et je ne pourrais pas m'y affilier sans m'attirer le reproche d'apostasie. Depuis quand la noble Gunhilde a-t-elle deux poids deux mesures ? Elle gardait le silence. Une lutte terrible bouleversait son âme. Eugénius crut pouvoir interpréter en sa faveur ce moment d'indécision, surtout après qu'elle eût dit « Vous avez raison, cela doit cesser. » Il fit un pas vers elle, mais elle l'arrêta d'un geste et d'un mot. « Sortez de ma présence. Vous paraissez oublier que vous êtes dans ma maison et en mon pouvoir » dit-il d'un ton offensé. « Dans votre maison, c'est possible, en votre pouvoir, non. Mais quand cela serait, vous n'auriez aucun sujet de crainte, » dit-il d'un air adouci. « De crainte ? » fit Gunhilde du ton de la surprise. « Je devrais vous craindre, moi qui n'ai jamais craint personne. Un homme comme vous ne m'inspire aucune crainte. Et si je vous retenais prisonnière ici ? » demanda-t-il fièrement. « L'impératrice saura bien vite que je ne suis pas rentré ce soir. Et il est probable que le préfet du palais a déjà reçu l'ordre de me chercher. Vous me faites penser que le temps passe vite. « Oh ! » s'écria-t-elle. Que ne puis-je vous faire penser à l'éternité ? Vous éprouvez donc un sentiment d'intérêt pour moi ? Peut-on voir un homme prêt à s'enfoncer un poignard dans le cœur, sans ressentir un mélange de pitié et d'horreur pour ce malheureux ? Vous êtes cet homme. C'est votre âme que vous voulez tuer. Votre pitié me suffit pour le moment, fit Eugénius d'un ton joyeux. L'horreur s'évanouira aussitôt que je vous aurai donné l'occasion de juger de la sincérité de ma conversion à l'arianisme. Je me ferai par là de grands ennemis dans le monde et dans ma famille. Je renonce à un brillant avenir. Mais qu'est-ce que cela si je gagne votre cœur ? Une fille arienne vaut donc plus pour vous que le Dieu éternel auquel vous vous êtes consacré, s'écria Gunhilde. Oh, que doit être l'Église catholique pour avoir des serviteurs aussi misérables ! Et pouvoir cependant demeurer aussi divine. Ôtez-vous de mes yeux, renégat de cette foi céleste. Je veux avoir sur le champ ma liberté. » On frappa doucement à la porte. Eugénius sortit. Son domestique, qui était son confident intime, lui parla à l'oreille. « Je m'empresse de vous annoncer, monseigneur, que la noble Eugraphia s'est rendue chez le préfet. Quel scandale si l'on vous trouvait ici avec elle !» Eugénius réfléchit un instant avant de rentrer dans la chambre. « Je veux ma liberté sur le champ, » répéta Gunhilde au moment où il entra. « Je vous la rends, mais seulement à la condition que je pourrai vous voir, vous parler une autre fois. Que Dieu m'en préserve, je veux ma liberté sans condition. Voyez combien je vous respecte. Votre désir est un ordre pour moi. Mes porteurs vous attendent. » « Non, » dit-elle résolument, Je n'ai pas confiance en vous, j'irai seul. C'est impossible, fit-il avec effroi. Je vous ferai sûrement accompagner, ou je vous accompagnerai. Ne comprenez-vous donc pas que j'aime mille fois mieux être seul qu'en votre compagnie? Il ne peut m'arriver rien de plus inouï que ce que j'ai vu et entendu ici. Ouvrez! Eugénius était dans une agitation torturante. Prenez mes gens, ils sont tout prêts. Je ne veux rien de vous, je veux seulement sortir d'ici. En disant ces mots d'un ton glacial, et avec un regard inflexible, elle passa devant lui et traversa la cour. Il n'osa pas la retenir, mais il la suivit et fit signe à un domestique d'ouvrir la porte. Arrivée sur le seuil, elle se retourna. « Que personne de vous ne m'approche !» dit-elle. « Je trouverai seul mon chemin. » Elle sortit. Jamais elle n'avait été seule dans les rues, jamais elle n'avait marché dans les rues le soir même accompagnée. Dans cette ruelle écartée, un profond silence régnait à cette heure. Tout le monde était couché. Gunhild ne savait pas où elle se trouvait. Elle ne savait quel chemin prendre pour aller au palais impérial. Elle fut saisie d'un serrement de cœur qui l'empêchait de respirer, de remuer les pieds. Elle était là, avec sa robe blanche traînante, immobile comme une statue de marbre, sous le ciel étoilé de la nuit. Mais bientôt ses yeux s'habituèrent à l'obscurité, et elle vit accroupi auprès de la porte quelque chose qui ressemblait à une figure humaine, un enfant, un garçon. « Saurais-tu trouver le palais impérial ?» lui demanda-t-elle d'une voix joyeuse. « Oh oui, mais j'ai faim, et je dois attendre ici pour avoir de bons gâteaux. »« Je t'en donnerai 10 fois autant, » dit-elle avec animation, « et de plus, un joli vêtement, si tu me conduis au palais par le plus court chemin. »« Venez, » dit le gamin en sautant sur ses pieds. « Donne-moi la main, mon petit ami, je ne vois pas bien. » Gunhild voulait avoir l'enfant à côté d'elle. « Venez tranquillement, » répondit l'enfant. « Je vous conduirai sûrement, et par le chemin le plus court. » Ce disant, il prit la main de Gunhild et ils se mirent à marcher. Eugénius et son confident avaient écouté sans bruit ce dialogue. Eugénius était d'abord décidé à suivre Gunhild à distance. Mais en voyant l'assurance du petit garçon, il crut mieux faire de s'abstenir. Il resta tout étourdi du résultat inattendu d'une rencontre dont il avait rêvé un tout autre succès. « Voilà une dame bien fière, bien arrogante, » dit le domestique, tout déconcerté. « Tais-toi avec tes sottes remarques, » fit Eugénius en colère. « Partons. » Ils sortirent tous deux par une petite porte de derrière que l'on ferma soigneusement sur eux, et ils retournèrent au palais de Graffia, où Eugénius avait ses appartements. Il était abattu ce soir-là, comme un général d'armée qui a perdu par sa faute une bataille décisive.